France Musique.
Le pays des orgues. Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour la 6e étape de notre randonnée musicale Le Pays des Orgues, dans la ravissante localité de Saint-Ursanne, un des plus beaux villages de Suisse, capitale du Clos du Doubs, dans le canton du Jura. Situons cette petite ville très pittoresque en disant qu'elle est baignée par le Doubs, à 440 mètres d'altitude et distante de 15 km de Port-en-Truy et de 19 km de Delémont. Au cœur de la ville, voici la collégiale, basilique romane à trois nefs sans transept, avec un chœur polygonal qui regarde déjà vers l'ère gothique, dont témoigne la tour édifiée en 1441. L'édifice a été restauré en 1984, de même que la sublime porte romane avec son portail entièrement sculpté et peint, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art roman en Suisse, sculpté probablement par les mêmes grands artistes qui travaillèrent à la cathédrale de Bâle.
Thank you.
André Campa, motet Ubi est Dominus Meus, par Catherine Padeau dessus, l'ensemble Éloquence, et Gabriel Wolfer, à l'orgue historique de la Collégiale de Saint-Ursanne. Pierre Migy, bonjour. Vous êtes le chef de chœur de Saint-Ursanne depuis près de 50 ans, et vous en savez un rayon sur l'histoire de cette ville. Alors, qui était Saint-Ursanne, dites-moi?
Alors, Saint-Ursanne, selon la légende, était un moine irlandais, compagnon de Colomban, qui a participé à l'épopée colombanienne aussi, et qui s'est établi sur les bords du Doubs, dans une petite grotte qui est située en dessus de la collégiale. C'est évidemment la légende qui nous dit ça. La réalité des faits est probablement un peu différente, parce qu'il n'existe aucun écrit qui prouve ces dires. Par contre, on sait que quelques années plus tard, un personnage de la cour du roi Dagobert est arrivé à Saint-Ursanne quelques années après la mort d'Ursanne et a érigé un premier bâtiment, une première chapelle sur les lieux, ce qui prouve quand même théoriquement l'existence d'Ursanne. Tout ça est entouré de légendes, évidemment. Il y a une autre preuve aussi, c'est les restes de Saint-Ursanne qui sont dans un sarcophage qui est entreposé dans le métro-hôtel et qui est actuellement peut-être vu par les visiteurs.
Quand on découvre Saint-Ursanne, on découvre un plan de ville médiévale assez pur, avec ses trois magnifiques portes, Saint-Paul à l'ouest, Saint-Pierre à l'est et Saint-Jean au sud. Il ne manque que Saint-Luc. On n'aimait pas Saint-Luc à Saint-Ursanne?
Alors, en fait, Saint-Luc est peut-être du côté du château, puisqu'il y a une montagne. Donc, il n'y avait pas de possibilité de mettre une porte de ce côté-là. Ça explique qu'il n'y en ait, en fait, que trois. Par contre, on trouve les évangélistes dans la collégiale. On trouve le tétramorphe, hein, donc sous la forme d'animaux ou d'anges, etc., au cœur de la collégiale, en dessus des stalles.
Pierre Murgy, au IXe siècle, le chapitre de chanoine de Saint-Ursanne relevait de l'archevêché de Besançon, et puis il passa à l'évêché de Bâle en 1210. On est de temps en temps avec les uns, de temps en temps avec les autres. Ça a été mouvementé, vraisemblablement.
Alors, très mouvementé. La vie monacale de Saint-Ursanne est un peu comme les méandres du Doubs, qui est entraîné comme ça dans leur histoire. Là. Effectivement, donc il y a d'abord eu des moines, comme je le disais tout à l'heure, à partir de 640 à peu près, qui vivaient selon la règle colombanienne, juste après Saint-Vendry, donc. Hein, c'est devenu effectivement après une dépendance aussi de l'abbaye de Grandval, puis ils ont suivi la règle bénédictine, et puis ensuite c'était converti au 8e siècle jusqu'au 9e en véritable abbaye, donc avec un abbé à la tête. Ensuite, louvoyé du côté de l'évêché de Bâle. Et puis en 1119, effectivement, là, on voit arriver un chapitre de chanoines qui sont donc séculiers, qui avaient des biens. Et puis, c'est là, en fait, que la collégiale a commencé à être érigée, dans ce siècle-là.
Et en 1797, les troupes révolutionnaires françaises ont saccagé pas mal de lieux de ce côté-ci, en Suisse, dans ce canton. Pas ici, à Saint-Ursanne. Ils n'ont pas mis l'orgue dans un état impossible à retrouver ensuite.
Alors, par chance, les biens religieux n'ont pas été trop touchés à Saint-Ursanne. Par contre, ce qui représentait le pouvoir, c'est-à-dire le château qui trônait justement sur le rocher dont nous avons parlé tout à l'heure, ce château était complètement détruit en 1792. Et voilà. Donc, on trouve même encore actuellement, par exemple, sur les toits des anciennes maisons qui se situent en dessous du château, les gens s'étaient servis de matériel, de pierres, de roches, de tuiles, par exemple.
Thank you. Bonjour Élise Rollin.
Bonjour Benjamin François.
Vous êtes professeur d'orgue au Conservatoire de Belfort et co-titulaire de l'orgue Jacques Besançon de Saint-Ursanne. Content de vous retrouver pour ce beau programme, depuis ce beau projet sur les pas de Bach en 2007. Et oui, déjà.
Tout à fait.
Les compositeurs que vous allez nous interpréter sur cet orgue répondent en partie à la question que je voulais vous poser. Quelles sont les potentialités de cet instrument en littérature? Bref, qu'aimez-vous y jouer?
Eh bien, c'est un orgue idéalement pour la musique française. C'est un facteur alsacien qui l'a construit, Jacques Besançon. Et donc ce programme est essentiellement français avec une suite de chorettes, mais je me suis permis également d'aller du côté de Mozart et de Carl-Philippe Emmanuel Bach, qui, je trouve, sonne avec merveille.
Et quand vous jouez cet orgue à d'autres moments, y a-t-il d'autres compositeurs que vous aimez jouer et que vous n'aurez pas le temps de jouer malheureusement durant cette émission ?
Eh bien, c'est un orgue qui se prête très très bien aussi à l'improvisation. D'ailleurs, lors des offices, on prend plaisir à improviser beaucoup.
Il y a aussi peut-être l'étendue du pédalier qui interdit de jouer d'autres œuvres.
Oui, tout à fait. C'est un pédalier d'une octave, donc il faut parfois un petit peu adapter.
Donc, pas vraiment beaucoup de musique de Jean-Sébastien Bach, par exemple.
Non, ça n'est pas idéal. Quoique certains chorales ou certaines partitas sonnent vraiment très très bien.
Avec Michel Corrette, dont vous avez choisi de nous jouer de larges extraits de la suite du premier ton, extrait du troisième livre d'orgue, Élise Rollin, on a l'impression qu'on tient là un musicien parfait de la fin du XVIIIe siècle français, dont les pièces résonnent assez parfaitement sur l'orgue de Saint-Ursanne. Quelles couleurs allez-vous nous faire entendre dans cette suite ?
Alors, les plus belles couleurs de l'orgue de Saint-Ursanne, c'est-à-dire le plein jeu, le grand jeu, très très brillant avec les anches, et puis des jeux de détails comme la voix humaine que l'on entend dans Musette. Voilà donc les plus beaux jeux, les plus beaux mélanges de l'orgue de Saint-Ursanne.
Michel Corrette, suite du premier ton, troisième livre d'orgue de 1756, avec successivement plein jeu, duo, trio, basse de trompette, dessus de cornet, musette et grand jeu, par Élise Rollin, à l'orgue de Saint-Ursanne. Bonjour Gabriel Wolfer.
Bonjour, bonjour.
On a plaisir à vous retrouver ici à Saint-Ursanne. Vous êtes organiste titulaire de l'orgue historique Jacques Besançon, restauré en 2004 par le facteur Bertrand Catiot. L'histoire de cet orgue, on pourrait presque dire qu'elle débute, pour l'orgue qui nous intéresse aujourd'hui, qu'on peut voir toujours, en 1703, comme à la cathédrale Saint-Christophe de Belfort, avec le facteur alsacien Joseph Waltrin, originaire de Remiremont et installé à Port-en-Truy.
Exactement, oui, tout à fait. Sauf erreur, dans le premier projet de Jacques Besançon en 1776, c'était pas de refaire un orgue à neuf, c'était d'augmenter l'orgue de Waltrin. Et finalement, on se retrouve avec un nouvel orgue, et le marché de Besançon est très clair. Voilà, il fait un orgue à neuf, et reprend quand même environ 200 tuyaux de l'orgue de Waltrin, qui sont dans les basses de doublette, nasard et tierce du grand orgue.
Que sait-on de cet enfant du pays, bourgeois de Saint-Ursanne, Jacques Besançon ?
Alors, on sait surtout qu'il a eu comme compagnon un autre facteur d'orgue de la région, des Franches-Montagnes, qui s'appelait Dubois. Dubois et Besançon ont largement collaboré dans leur carrière en Alsace. Il semble qu'ils étaient les premiers, les concurrents sérieux, les plus sérieux des grands Zilbermann, et qu'ils étaient donc considérés par Zilbermann comme de bons facteurs d'orgue. Ce rapprochement entre les deux facteurs, il est attesté lorsque subitement Dubois décède, il confie son atelier à Jacques Besançon. Donc il continue de travailler en Alsace. Et puis, vers la cinquantaine, c'est un peu mystérieux la fin de la vie de Besançon. Il revient au pays natal, donc ici à Saint-Ursanne.
Il se marie, je crois.
Il se marie. Le mariage ne dure pas très longtemps. Il devient veuf très rapidement. Et on ne sait pas si c'est la tristesse, ce qui se passe, mais l'activité diminue énormément jusqu'à s'estomper complètement.
C'est pas rien de construire un orgue pour sa ville natale. On devait quand même attendre beaucoup son travail.
J'imagine, oui. Et puis, curieux coup du sort, c'est quand même avec l'orgue de Feu Klingshofen et un autre petit orgue dans un village d'Alsace dont j'ai oublié le nom, c'est quand même le mieux conservé, celui de Saint-Ursanne.
Avec lui, on aborde aussi la facture classique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Est-ce que ça se rend compte dans les jeux que l'on trouve dans cet instrument, dans leur harmonisation ?
Ah ben oui, quand même, oui. Évidemment, Zilbermann a apporté le savoir-faire versaillais qui a été repris dans toute l'Alsace. Et puis on sent aussi l'influence de l'Allemagne pas très loin dans certaines utilisations des quatre pieds. Ici, à Saint-Ursanne, par exemple, il y a 5 jeux de quatre pieds, ce que vous ne trouviez plus chez Clicquot.
Ce qui donne une clarté aussi quand on joue de la polyphonie, peut-être.
Oui, oui. Et puis, bon, ben, une spécificité. Vraiment, c'est typiquement alsacien. Aussi, les tailles sont grandes. Les pleins jeux, enfin, tout le fond d'orgue a des tailles très grosses. Ça avait presque affolé Bertrand Catiot. Affolé, c'est pas le bon mot, mais ça l'avait tellement surpris qu'il se demandait comment on pouvait faire sonner un plein jeu de cette façon-là. Alors, ça lui donne une couleur tout à fait singulière, mais absolument attachante et typique de ces instruments-là.
Donc un orgue orinois, on va dire, qui ignorait complètement les frontières, mais qui était différent de toute façon à l'époque.
Oui, voilà, de toute façon, oui, ici, vous savez, ici, on est quand même un petit peu en France, hein, l'histoire de la région le confirme, puis peut-être la mentalité aussi. Et puis cette région ici a été une des régions les plus touchées par la Révolution française, parce que le peuple jurassien, enfin, le peuple, oui, de toute cette région ici, s'est quand même révolté contre son prince-évêque de façon assez virulente, ce qui n'a pas eu lieu forcément dans d'autres régions de Suisse.
Vous voulez dire qu'il a fini au bout d'une pique ?
Non, mais il s'est sauvé juste avant. Mais, oui, on sait qu'il a passé les gorges du Pichou qui mènent à Belley pour aller se réfugier à Bienne, sentant un fort vent de révolte.
Thank you. Jean-Adam Guilin, tierce en taille en sol mineur, extrait de la suite du deuxième ton par Élise Rollin à l'orgue de Saint-Ursanne. Et en 1984, quand on commence à prendre vraiment au sérieux la restauration de l'orgue de Saint-Ursanne, il va y avoir une restauration par Bertrand Catiot qui est choisi pour restaurer l'instrument.
Oui, alors c'est un peu particulier parce que la collégiale a subi une longue restauration, une magnifique restauration, qui a duré le temps qu'il fallait pour que ce soit très beau. Et à la fin de cette restauration, en 1984 justement, on a voulu restituer l'orgue dans son état d'origine. Et là, c'est un facteur suisse du Valais, Fuglister, qui a fait cette restauration. Et 20 ans à peine, 20 ans après, plus tard, on a fait une deuxième restauration qui a été menée par Bertrand Catiot. Alors, il y a peu d'orgues qui subissent des travaux importants sur une période si rapprochée. Et là, il a fallu argumenter la chose. Ça, c'est mal parti, hein, puisqu'on nous a tout de suite fait comprendre qu'on ne pouvait pas redépenser une somme d'argent pour refaire des travaux sur un instrument qui venait d'être restauré. Et ça s'est très bien terminé, parce que on a pu s'entourer de personnes extrêmement compétentes, le facteur d'orgue en premier, mais aussi Christian Lutz comme technicien conseil. Et il y avait un vrai travail d'identité à redonner à cet orgue. Alors, ce n'est pas que Fuglister ne l'avait pas fait, mais c'est que pendant ces 20 ans-là, il faut se dire qu'en France, il s'est passé des choses phénoménales dans la restauration des orgues historique, et que le savoir-faire s'est acquis le long de ces années-là, et que ici à Saint-Ursanne, on voulait aussi profiter de ce savoir-faire. Et ça s'est bien, très bien terminé, parce que autant que Catiot que Fuglister ont fini par se tutoyer.
Bratsu-bratsu.
Oui, oui, voilà.
Et Gabriel Wolfer, aujourd'hui, cet instrument fait partie des tribunes baroques. Il y a une saison de concert, il y a une vie musicale autour de cet instrument et de ce lieu, à Saint-Ursanne.
Oui, oui. C'est un très bel instrument solo, mais c'est aussi un très bel instrument de continuo, qui est en 415. Il y a de la place sur la tribune, on peut faire des petits motets, on peut faire beaucoup de belles choses avec cet orgue. On peut aussi dialoguer avec un ensemble baroque qui se trouve dans le chœur. Ça va être le cas prochainement avec le Te Deum de Charpentier et l'ensemble correspondance. Donc l'orgue a retrouvé une vie culturelle très importante.
Merci Gabriel Wolfer.
Avec plaisir.
Et on vous retrouve très bientôt à Port-en-Truy.
C'est ça.
Le pays des orgues, Benjamin François, c'est l'été sur France Musique.
Élise Rollin, malgré de nombreux postes à responsabilité, Carl-Philippe Emmanuel Bach n'a cependant pas été titulaire d'un instrument durant sa carrière. Il aura été plutôt claveciniste, forte pianiste. Il nous laisse pourtant une centaine de sonates, dont 6 sonnent admirablement à l'orgue. Et vous allez nous en jouer l'une d'entre elles.
Oui, c'est l'en sol mineur.
Pourquoi celle-là ?
Ah, je la trouve très belle et très tourmentée aussi. Et j'appréciais beaucoup le caractère de cette sonate.
Quelle couleur de l'orgue allez-vous faire entendre à cette occasion ?
Eh bien, une sorte de plein jeu dans le premier mouvement, quelque chose de brillant. Et puis le deuxième utilisera le tremblant de l'orgue et puis les flûtes, magnifiques flûtes. Et le dernier, à nouveau très brillant, avec un mélange 8-4-2 Nazar.
On est dans l'air de l'Empfindsamkeit.
C'est exactement
indéfinissable en français.
Thank you.
Carl Philipp Emanuel Bach, sonate en sol mineur, Allegro moderato, Adagio Allegro, par Élise Rollin à l'orgue de Saint-Ursanne. Et pour terminer ce programme, Élise Rollin, vous nous faites une magnifique surprise que cette transcription des variations « À vous dirai-je maman » de Mozart, un pavé dans le jardin des pianistes, n'a. Élise Rollin, avez-vous été obligée d'adapter le texte de Mozart pour pouvoir le jouer ici à Saint-Ursanne ?
Ah oui, il a fallu faire quelques adaptations. Il manquait parfois quelques notes dans l'aigu du clavier, donc j'ai octavié quelques phrases musicales.
Et quand on a des variations, on est un tout petit peu obligé de changer de couleur à chaque variation.
Plus qu'une obligation, c'était un plaisir.
Voilà. Un plaisir. Comme vous le dites bien, que faire dans ces cas ? Qu'allez-vous faire ? Un peu comme en cuisine, où on demande à un chef étoilé ses ingrédients pour une succulente recette, quelle couleur de l'orgue de Saint-Ursanne allez-vous choisir pour nous interpréter ce « Ah, vous dirai-je, maman ?»
Alors, vous allez entendre pratiquement tous les mélanges possibles, des flûtes, bourdons, les jeux les plus doux, jusqu'au brillant grand jeu qui clôt ces variations.
Eh bien, merci Élise Rollin.
Merci beaucoup à vous, Benjamin François.
Merci de ce très très joli programme sur l'orgue de Saint-Ursanne.
Avec plaisir, on a eu beaucoup de plaisir. Merci.
Thank you.
Et c'est ainsi que s'achève notre sixième étape dans le pays des orgues. Il me reste à remercier Pierre Migy, Gabriel Wolfer, titulaire, Élise Rollin, co-titulaire, la vaillante équipe du pays des orgues, à la prise de son Michel Gassic et Valentin Azan-Tielenski, Thaïssa Froidure, attachée de production, et Jean-Claude Mullet à la réalisation. La semaine prochaine, notre voyage au pays des orgues se passera, on va faire un saut de puce, de 15 km pour visiter Porrentruy avec son orgue, copie du saxon Gottfried Silbermann, qui nous sera joué par Gabriel Wolfer. D'ici là, profitez bien du soleil et des concerts d'orgue qui ont lieu pas loin de chez vous. N'oubliez pas la page de l'émission avec une carte interactive, des photos, liens et ressources documentaires, la réécoute et le podcast sur francemusique.fr. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.